Bonsoir et téléspectateurs du studio Kalangou. Bonsoir et bienvenue à nouveau dans notre forum quotidien. Aujourd'hui, notre thème va porter sur la polygamie, comment les co-épouses doivent cohabiter pour le bonheur de la famille. Je suis Rafika Taher pour vous accompagner tout au long de cette émission. Pratiquée depuis la nuit des temps, notamment dans les familles musulmanes, la polygamie est l'un des régimes matrimoniaux en vigueur au Niger. Aujourd'hui, de nombreuses femmes vivent dans les familles polygames, une situation qui a autant d'avantages que d'inconvénients. De nombreux cas de violence sont enregistrés malheureusement entre coépouses. Alors qu'est-ce qui expliquerait cela? Comment doivent-elles cohabiter pour le bonheur de la famille? À ces questions et à bien d'autres, nous allons essayer de répondre en compagnie de M. Alzouma Traoré Ibrahim de SOS Femmes et Enfants, victime de violences familiales, en compagnie de M. Ibrahim Hamadou Bagna, sociologue, et enfin en compagnie de Oustaz Mahamadou Mustapha, prédicateur et membre du Conseil islamique du Niger. Nous allons entamer cette émission avec vous, M. Ibrahim. La polygamie est un fait social. Comment est-ce que vous définissez cette pratique?
La définition de la polygamie est très simple. Le fait de posséder un grand nombre de femmes. Mais la religion, en tant que musulman, nous a donné une certaine limite. Ne pas dépasser 4 épouses. Au-delà de 4 épouses, on n'est plus dans la légalité religieuse.
Oustaz, pourquoi la polygamie dans notre société?
A'ouzou billahi minash shaitani rajim, bismillah ar-rahman ar-rahim, wassalatu wassalamu ala rasulillah, khatim al-anbiya, imam al-mursalin. Pourquoi la polygamie dans notre société? Je préfère que pourquoi la polygamie dans notre communauté musulmane? Parce que Ibrahim a déjà évoqué l'origine. En fait, l'islam a institué la polygamie pour solutionner un problème. C'était à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand ces hommes vont sur les fronts de la guerre, ils confient leurs enfants, filles et garçons, à des parents adoptifs. Alors ces parents adoptifs-là, ils se retrouvent avec tant de filles, de petites filles, que la majorité de leurs papas ne revient pas malheureusement du front vivant. Donc, pour ne pas abuser, parce qu'ils ont commencé à avoir la tentation, les parents adoptifs, je vais dire, les hommes, eh bien, pour éviter effectivement qu'il y ait le risque de la gestion de ces enfants-là, Allah a dit dans un verset, c'est le verset numéro 4 de la sourate, les femmes, « وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. » Si vous craignez ne pas être équitable dans la gestion des orphelins, eh bien, épousez parmi elles 2 ou 3 ou 4. Mais même là, si vous savez que vous n'allez pas les gérer équitablement, eh bien, contentez-vous d'une seule. Et éprouvez d'abord la capacité des orphelines, filles que vous avez en gestion, là, c'est-à-dire la maturité des orphelines, jusqu'à ce qu'elles atteignent l'aptitude au mariage.
Si je vous suis bien, Oustaz, à la base, la polygamie, un homme doit épouser des jeunes filles orphelines. C'était la base de la polygamie.
L'origine des versets de mariage, de polygamie, est venue à partir des orphelines.
D'accord.
Et ce sont des filles adoptives, comme je vous ai dit, mais ce n'est pas une obligation.
D'accord. Quels sont alors les avantages ou les inconvénients?
Les avantages, c'est qu'en matière de mariage, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, pour comprendre l'avantage de la polygamie, d'avoir plusieurs femmes, parmi ces signes lieux Allah, il vous a créer de vous et pour vous des épouses. Des épouses, il n'a pas dit une épouse. Pour que vous viviez en tranquillité. Pour avoir l'esprit tranquille avec elle. Ensuite, la vie n'a aucun sens sans un héritier. Donc c'est pour avoir aussi des enfants. Ça, c'est un deuxième avantage. L'autre avantage, c'est que ça t'éviterait les vagabondages sexuels. Un autre avantage encore, cette fille-là, ça lui éviterait, la femme qui sera en mariage, ça lui éviterait d'être comme une passe-main entre celui-là et celui-là. Il y a beaucoup d'avantages, tant biologiques que sociaux, n'est-ce pas? Et même naturels, parce que l'homme, il a été créé avec un instinct qui ne peut pas les laisser rester comme ça. Les inconvénients, c'est que vous prenez quelque chose dont vous ne pouvez pas gérer. Parce que ici, c'est Allah dit, "Wain khiftum Allah ta'adulu." Si vous craignez ne pas être juste, vous ne pouvez pas supporter. Donc déjà, il y a l'impossibilité ou l'incapacité de soutenir. Tu sais que ça, là, je ne peux pas le supporter. Et tu prends. Ça, c'est un premier inconvénient. Deuxième inconvénient, c'est de juger une femme à partir de sa morphologie. Je vais vous donner très rapidement...
On parle bien sûr de la polygamie.
De la polygamie, justement. Oui. Justement, parce que justement, c'est là où se trouvent les choses. Tu préfères celle-là là, à celle-là. Parce que celle-là, elle n'est pas chose, elle n'est pas... Non. C'est-à-dire, il faut être équitable. Ne jugez pas les gens. C'est, je viens de parler de trucs biologiques ou naturels. Si elle a une certaine créature qu'Allah lui a donnée, il ne faut pas la stigmatiser ou la détester à cause de ça. Donc, elle aussi, elle peut les détester parce que quand elle va trouver qu'il n'est pas l'homme, en quelque chose comme ça.
L'homme quoi. Qu'elle pensait être.
Ou quelqu'un pensait avoir les choses. Parce qu'Anas ibn Malik, qui est un compagnon du prophète qui a eu le savoir de jurisprudence, il a épousé une femme sans faire les règles que l'islam a dit de faire, c'est-à-dire la consulter, la voir, l'amener chez elle, tout ça là, lui expliquer ce que j'ai. Donc, il a pris, c'est le jour, c'est la nuit de noces là, il a vu qu'elle est vilaine, elle ne l'attire pas. Donc, vous voyez, c'est un inconvénient. C'est un inconvénient tant pour elle que pour lui. Donc, maintenant, il n'a pas voulu faire les noces avec elle. Il n'a pas voulu vraiment faire la sunna avec elle. L'inconvénient du mariage, c'est à deux. Parce que le mariage ne se fait pas à une seule chose. Même le co-épouse, là, c'est à deux. Celle-là avec l'homme, celle-là avec l'homme, c'est comme ça. Donc, je suis d'accord. En train d'aller progressivement. Mmh. Mais on va en venir, Inch'Allah, oui, pour ne pas monopoliser la parole.
Monsieur Alzouma, quelle est votre analyse sur la cohabitation des co-épouses dans notre société?
Merci au studio Kalangou de nous donner cette opportunité. Et entre co-épouses, c'est vrai, on rencontre beaucoup de problèmes. Je ne dis pas que c'est un phénomène qui est commun à tous les ménages, mais quand même, nous, en tant qu'ONG, on reçoit beaucoup de plaintes de ce genre, donc entre co-épouses, parce que tout simplement, d'être la première n'a jamais accepté le fait qu'une deuxième vienne la seconder, ou qu'une troisième vienne, ou qu'une quatrième. Donc cela crée des frustrations au niveau du couple. Et comme Oustad l'a dit aussi, c'est un des inconvénients de la polygamie, c'est le fait de ne pas pouvoir la gérer. Certes, c'est une possibilité qui a été donnée, une option, donc selon l'islam, que l'homme a droit à 2, 3 ou 4 femmes, mais à condition qu'il puisse être en mesure, en tout cas, et d'assumer cela. Et des fois, c'est ça, c'est là où se situe le problème. Quand l'homme n'arrive pas à assumer cet état de fait, quand il n'arrive pas à contrôler ou à gérer bien cette polygamie-là, cette option, cette possibilité que Dieu lui a donnée, ça peut créer des tensions au niveau de la famille. Donc, et c'est surtout ce genre de tensions-là qu'on nous fait connaître au niveau de l'ONG et que nous essayons, donc, par des mécanismes de négociation, de conciliation, à gérer. Et des fois aussi, nous faisons appel toujours aux associations islamiques pour qu'ils puissent nous éclairer par rapport à ce qui doit être pris. Pourquoi? Parce que la polygamie, c'est une option qui est contenue dans l'islam. C'est uniquement dans l'islam. Donc, ça veut dire que pour qu'on ait un éclairage, certes, nous avons des connaissances sur le plan social, sur le plan juridique, mais il faut aussi, des fois, faire appel à ces éléments-là pour qu'ils puissent nous éclairer par rapport à ce que le Coran dit.
D'accord. Monsieur Ibrahim, selon vous, qu'est-ce qui motive les hommes à prendre plus d'une femme?
Oui, vous voulez évoquer les facteurs. Les facteurs, oui. Ils sont multiples. Il y a les facteurs sociaux, culturels, religieux. Il y a aussi les facteurs économiques. Il y a même des facteurs biologiques. Quand je prends l'exemple des facteurs sociaux, culturels et religieux, voyez, le fait de posséder un grand nombre d'enfants est un prestige. Quand on se réfère à la société purement traditionnelle, maintenant nous sommes en train d'évoluer dans une société tradie moderne. Donc, le contexte n'est un peu différent. Donc, on est parti d'un contexte purement traditionnel à un contexte tradit moderne. Dans le contexte traditionnel, le fait d'avoir un grand nombre de femmes vous donne la possibilité d'avoir un grand nombre d'enfants. Et le fait d'avoir un grand nombre d'enfants vous augure un certain prestige. En dehors de ça, vous, en tant que chef de ménage, vous vous sentez en sécurité quand vous avez un grand nombre de femmes. Parce que parmi ces femmes-là, deux ou trois peuvent tomber enceintes. Donc, le fait d'avoir une femme qui est disponible, ça vous met en sécurité. Parce que ça vous met en sécurité et ça vous peut-être éviterait d'aller, de vous lancer dans la débauche. C'est-à-dire quitter son foyer légal pour aller rencontrer une autre femme dehors et accomplir vos services sexuels avec elle. Ce n'est pas, en tout cas religieusement, c'est condamné. Parce que qu'est-ce qui pousse les hommes à prendre un grand nombre de femmes? La plupart du temps, vous avez une femme qui n'a pas votre temps. D'abord, elle se sacrifie pour son travail. Elle se consacre pour son travail. Vous sentez qu'il y a un manque d'attention. Des fois, elle n'a pas confiance en vous. Ou vous-même, vous n'avez pas confiance en elle. Le manque de confiance aussi amène l'homme à chercher une autre femme. Le manque de l'absence de sécurité sexuelle peut amener un homme qui s'attache à sa religion, qui ne veut pas tricher, à se marier à une autre femme. Pour ce qui est des raisons religieuses, on a la possibilité de se marier jusqu'à 4 femmes. Ça, c'est la religion nous l'a permis. Au-delà de toutes ces causes, il y a aussi les causes économiques. La plupart des gens qui se marient à 4 femmes, ils pensent qu'ils ont la possibilité de s'assumer. Ils pensent qu'ils ont la possibilité de leur garantir un minimum vital. Parce qu'on dit que si vous avez cette possibilité-là, vous pouvez prendre jusqu'à 4 femmes.
Là,
c'est les conditions économiques qui l'expliquent. Mm-hmm. Parce que vous vous sentez en bonne posture économique pour prendre en charge 4 femmes.
Quelle est votre perception sur la pratique?
Moi, ma perception sur la pratique de la polygamie, elle est positive. Moi, je fais partie des gens qui encouragent la polygamie. En tant que tel que l'homme, il sait qu'il peut s'assumer devant ses responsabilités. Je pense qu'il a le droit de prendre 4 épouses.
Et dans la société.
Pour mettre non seulement en sécurité ses épouses, et ne pas aller se lancer dans la débauche sexuelle, mais aussi pour se sentir, pour se donner un certain respect. Parce que dans notre société traditionnelle, je suis en train de faire la différence, hein. C'est quoi le problème? Aujourd'hui, avec la modernité, on est en perte de repère. On ne sait pas si nous sommes dans la tradition ou bien si nous sommes dans la modernité. Vous prenez un grand nombre de femmes, vous êtes en face de quelques difficultés parce que peut-être que les 4 femmes que vous avez épousées, elles vont toutes au travail.
Vous parlez de votre perception personnelle ou bien en tant que sociologue pour la société?
Non, ma perception en tant que sociologue de la polygamie.
Mm-hmm.
Ben, en dehors de ça, hein, il y a aussi l'opportunité que la polygamie offre aux femmes qui sont dans le veuvage, d'avoir la possibilité de se remarier. Dans la plupart de nos sociétés africaines, on a tendance à avoir un nombre élevé de femmes. Donc, si nous-mêmes, nous n'encourageons pas la polygamie, nous risquerons de mettre en insécurité beaucoup de femmes. Et une femme qui est mûre, qui jouit de ses capacités biologiques, je pense qu'elle a droit au mariage. S'il n'y avait pas la polygamie, beaucoup de femmes ne se seraient pas mariées.
Nous sommes allés à la rencontre des femmes qui évoluent dans les mélanges polygames. Voici leur reportage.
Je me suis mariée il y a de cela 16 ans. J'ai 4 enfants et une coépouse. Au début, mon mari et moi, on était amoureux. Maintenant qu'il s'est remarié, tout va mal. Nous faisons face à beaucoup de problèmes. Je ne comprends plus mon mari. Ma coépouse fait de moi ce qu'elle veut. Et lui, il la supporte. Je n'ai jamais raison quand je dis quelque chose. C'est toujours elle qui dit vrai pour lui. Dans la maison, c'est la jeune mariée qui dirige. Ce que je dis n'a aucune valeur. Il me fait comprendre maintenant que je ne suis rien pour lui, qu'il me garde juste pour mes enfants. Il ne fait rien pour moi et mes enfants aussi. Même si je cuisine, il ne mange pas. Je me confie à Dieu. Si je vais à la maison chez mes parents, on me demande d'être patiente. Maintenant, mes parents ne m'écoutent plus. Parce qu'ils pensent que je me plains trop. Même si je veux divorcer, c'est une affaire de grand. Et personne ne m'écoute. Et je ne suis pas heureuse. La solution, je pense que c'est divorcer et retourner chez mes parents. Parce que je suis fatiguée des humiliations que je vis avec mon mari. Je suis la seule à savoir ce que je vis. Ce genre de problème, c'est vraiment trop, parce que toute femme qui les vit ne sera pas tranquille, elle et ses enfants.
Nous allons maintenant rentrer dans le vif même de notre sujet qui est la cohabitation des coépouses dans les foyers polygames. Monsieur Alzouma, vous représentez l'ONG Femmes et Enfants victimes de violences familiales. Que pensez-vous de cette pratique de société de la cohabitation des coépouses dans un même foyer?
Bon, ça je crois que c'est quelque chose qui doit être laissé à l'appréciation de l'homme qui choisit d'être polygame, parce que c'est en fonction de ses moyens. Il y en a qui ont les moyens de faire une maison, de donner une maison à chacune de ces femmes. Donc elles n'auront pas à cohabiter dans une même maison. Et là je crois que ça amoindrit tous les risques de problèmes qui peuvent être liés à la cohabitation. Mais il y a d'autres aussi qui n'ont pas les moyens de se faire plusieurs maisons, donc ils seront obligés de les loger dans une même maison. Toujours est-il dit que moi je pense que cette harmonie-là au sein du foyer, au sein de cette famille, doit venir de l'homme. L'homme qui a choisi cette option donc doit aussi prendre toutes les dispositions pour s'assumer en tant qu'homme et faire en sorte que ces femmes puissent vivre en harmonie. Mais aujourd'hui, malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc on assiste à beaucoup de problèmes qui sont liés vraiment à cette cohabitation. Nous, en tant qu'ONG, nous recevons beaucoup de plaintes de ce genre. Et d'ailleurs, si je dois donner des statistiques, 40% des cas que nous recevons aujourd'hui sont des cas qui sont liés au phénomène même de la vie conjugale, c'est-à-dire des problèmes au sein du couple ou bien au sein de la famille. Donc, notamment, je mets là-dedans aussi des phénomènes de répudiation, tout ça là. Mais quand même, nous avons eu 5% qui sont liés directement à des conflits entre coépouses. Donc, vous voyez, ce n'est pas rien. Et je pense que des mesures doivent être prises. Donc, comme on l'a bien dit, donc le Coran nous donne cette option, cette possibilité de faire plusieurs femmes. Mais il faut aussi que nous soyons en mesure donc, d'assumer cela. C'est ça la suite du verset donc, qui a été récité par Oustaz. Et les gens doivent donc se dire que s'ils n'ont pas la possibilité matérielle ou la possibilité financière ou même la capacité donc, d'assumer cela, on a bien dit une seule est mieux pour vous. Parce qu'on sait que ce n'est pas facile aujourd'hui d'aimer 4 femmes de la même manière. Donc certainement, et ce n'est pas donné à tout homme aussi de s'abstenir, de montrer qu'il a une préférence pour une autre. Et c'est cette préférence-là qui crée des problèmes entre ses coépouses. Ou bien, montrer que tu aimes plus le fils d'une telle que celui de telle autre. Ça aussi, ça crée des frustrations et c'est ça qui crée aussi des problèmes. Donc, l'homme vraiment qui choisit cette option doit tout faire pour essayer de ne pas arriver à cela, pour le bien de sa famille, pour son harmonie. Et pour le deuxième verset aussi que Oustaz avait dit, que la femme a été créée par nous, pour nous, pour que nous vivions en harmonie. Donc vous voyez, l'harmonie là aussi c'est primordial. Donc ça veut dire que l'homme doit tout faire aussi pour que l'harmonie règne au sein de la famille, parce que c'est ça même la base de la société.
Donc tout retombe sur l'homme, la vie en harmonie entre coépouses.
C'est vrai, le problème peut venir des femmes, mais je me dis que c'est lui qui a créé cette situation quand même sur l'homme, donc il doit se donner aussi les moyens donc d'instaurer cette sécurité au sein de sa famille.
Comment est-ce que vous abordez la question au niveau de SOS FEVS?
Vous savez, quand nous recevons des cas, on fait un peu la genèse de toute la situation. Parce que des fois, pour comprendre le phénomène, pour comprendre ce qui est à la base du problème qui est créé entre soit le couple ou entre les membres d'une famille, il faut faire la genèse de l'historique de toute cette situation. Et ce chemin faisant qu'on essaye, qu'on arrive à comprendre que le problème vient de tel ou tel aspect. Donc, et en ce moment-là, on se met ensemble, on crée la situation pour que chacun puisse donner et contribuer à ce que cette harmonie-là puisse être ramenée au sein de la famille. Donc, on essaie vraiment de joindre l'utile à l'agréable, de demander d'abord à ce que chacun puisse vraiment mettre un peu du sien pour que cette harmonie-là puisse revenir. On essaie de situer les responsabilités Ou est-ce que c'est sur cette responsabilité-là? Et maintenant, comment est-ce qu'on va arriver à juguler cela pour que vraiment la paix puisse régner au sein de cette famille?
D'accord. Oustaz, quel est le rôle des épouses l'une envers l'autre dans les foyers polygames?
Bon, le rôle de l'épouse, c'est ils ont la même mission.
Les épouses,
mission, oui. Ils ont la même mission. C'est quoi la mission? C'est que chacune sait qu'elle l'a amenée dans ce foyer-là. C'est pour servir son mari et en cas de naissance, gérer les enfants. Ici, c'est qu'il faut dire peut-être, les femmes, à quoi s'en tenir si on est de coépouse?
Voilà.
Si on est de coépouse dans une... Je vous ai parlé en amont qu'il y a une séance de concertation préalable avant le mariage. Sur quoi est-ce que vous êtes parti avec ton mari? Très certainement, ce que tu as promis à celle-là, ce n'est pas ce que tu vas promettre à l'autre. Donc ici, c'est qu'il faut s'en tenir effectivement à la promesse. Quand tu vois, toi, une femme ou coépouse, tu vois, on fait quelque chose à ta coépouse qu'on ne te fait pas, tu peux demander. Mais s'il t'explique, voilà le problème, il faut aussi accepter. Donc, c'est là le problème. Vous êtes une femme, madame, vous savez que ce n'est pas facile de joindre les choses. Maintenant, le rôle des coépouses dans la maison, c'est de s'entendre parce qu'elles ont la même mission. Elles ont les mêmes intérêts. De toute façon, il ne peut pas donner plus que à l'une plus que l'autre. Ce n'est pas possible. Et lui-même, l'homme, on a dit, il y a un verset qui dit que vous ne pouvez pas partager votre cœur à des mêmes degrés à vos femmes, à plusieurs femmes, même si vous tentez, vous ne pouvez pas en arriver. Donc ça veut dire qu'il y a toujours un petit moins chez l'une et un petit plus chez l'autre. Mais c'est à elle maintenant de dépasser cela, de comprendre que certainement que peut-être il a pris un engagement pour celle-là là, qu'il n'a pas pris avec moi, des trucs comme ça. Donc ça, c'est entre elles. Un autre rôle de couple, c'est de compétition pour attirer les dirhams vers elles. De compétition, pas la bagarre. Pas
oui,
la
cette bagarre, compétition-là, est-ce que ça ne peut pas avoir des impacts sur leur cohabitation?
Ça dépend de l'objectif que tu vises. Toi, tu as fait ça, moi, je ferai plus. Pour attirer plus son amour vers moi que vous.
Monsieur Ibrahim, qu'est-ce que ces genres de compétition peuvent avoir comme impact entre co-épouses? Parce que si l'une essaie d'avoir les faveurs du mari, l'autre aussi essaie d'avoir les faveurs du même époux, des fois, ça peut engendrer des conflits.
À partir du moment où le mari s'engage à être polygame, il doit se dire qu'il aura affaire devant lui à des épouses qui vont se mettre en compétition. Et la compétition pour les épouses, c'est d'avoir l'affection du mari. Chacune va vouloir s'arroger de l'affection du mari. Chacune va vouloir se donner plus d'attention. La compétition, elle est engagée. Les scènes de jalousie commencent déjà à se jouer. Donc, ça crée un problème de cohésion au niveau du ménage. Dès lors que le mari accorde plus d'importance à une de ses épouses, les autres deviendront jalouses et vont pouvoir donner une réponse au comportement du mari à travers quoi? À travers des actes malveillants et qui ne sont pas de nature à préserver la sérénité au sein du foyer. Ça, c'est un. Il y a aussi des conséquences, hein, parce que ce que vous êtes en train de dire là, ça rime avec les conséquences et les risques que cela comporte. Et les conséquences, si vous avez des enfants, cela peut avoir des impacts sur la santé émotionnel des enfants. Un enfant qui évolue dans un environnement familial où il y a toujours des querelles, où il y a toujours des insultes, où il y a toujours de la bagarre. Donc ça va l'affecter. Lui, il va finir par devenir un enfant qui n'a pas de personnalité, qui ne joue pas de sa personnalité, qui n'a pas l'esprit tranquille, qui est distrait même à l'école, qui a toujours des soucis. Donc pour éviter cela, donc il faudrait que le mari soit quelqu'un de très 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 subtil, qui sait gérer les situations et qui sait ménager ses épouses. En dehors du fait qu'il rentre en compétition pour se donner une certaine importance aux yeux de leur mari. Donc, les femmes, elles-mêmes, elles peuvent créer des situations qui vont mettre mal à l'aise le mari. Et les femmes peuvent avoir des préjugés chacune sur l'autre. Parce que le problème de la polygamie, c'est quoi? Si les femmes sont prédisposées à accepter le mariage, la polygamie, je pense que le problème n'allait pas arriver. Mais les femmes, la plupart du temps, les femmes qui viennent trouver la première femme, d'abord, elles ne sont pas disposées à l'accepter. Vous savez que celui qui va vous prendre en mariage, il a déjà des épouses, il a déjà une épouse. Maintenant, vous refusez de reconnaître son épouse et vous voulez avoir sa place, sachant bien qu'elle, elle a des enfants. Moi, je me dis bien que les femmes elles-mêmes, elles ont quelque part, elles ont tort. Les femmes qui viennent en dernier ressort, là, dans les familles. La femme, la première épouse, elle est déjà la première. Ça lui donne déjà un privilège. En dehors de ça, elle a des enfants. Le fait même d'avoir des enfants avec un mari, ça renforce l'unité de la famille. Vous n'avez pas d'enfants. Jeune marié, vous venez, vous voulez faire imposer votre dictat. Même si vous voulez imposer votre dictat, vous devez aller par étapes. Lorsque vous allez avoir des enfants, vous allez créer des bons rapports avec la belle famille. En ce moment, vous pouvez avoir beaucoup de regards vis-à-vis de votre époux ou vis-à-vis de vos beaux-parents. Mais vous ne pouvez pas tout d'un seul coup venir et vouloir prendre la place de la première. Donc c'est ça, des problèmes comme ça qui persistent dans les foyers et qui créent des situations de conflit.
Mm-hmm.
Et bon, heureusement que nous sommes en Afrique, hein, on a toujours des mécanismes communautaires de gestion de conflits dans les foyers. Parce que le premier mécanisme, c'est le recours aux sages.
Mm-hmm.
Nietzsche, le recours aux sages et aux marabouts, beaucoup de foyers allaient se disloquer.
Mm-hmm. D'accord. Il y a M. Alzouma qui aimerait réagir sur la question.
Oui, je voulais juste dire deux mots par rapport aux compétitions. Donc, vous voyez, les compétitions, là, c'est normal. C'est normal parce que chacune veut avoir, c'est vrai, le mari. Mais les compétitions, là, ça doit être subtil. C'est-à-dire, c'est à la femme de développer ce qu'elle va faire pour que son mari l'aime plus. Elle n'a pas besoin de l'exposer pour que les autres voient. En ce moment-là, ça devient comme quelque chose, c'est comme si elle veut les... comment je vais dire oui, c'est-à-dire, voilà. Mais elle doit le faire quand elle est avec son mari. Et Dieu seul sait que les femmes font quand elles sont avec leur mari. Mais pas de manière ouvertement à venir le dire comme si je suis en train de le faire juste pour montrer à l'autre que moi je suis plus qu'elle. C'est ça. Et ça rejoint aussi le fait qu'elle avait dit quand il y a des enfants. Quand elle les fait, au moment où elle est juste avec son mari, ça va éviter le fait que les enfants soient témoins de ces choses-là et peut-être que ça va affecter leur vie future.
Mm-hmm.
Mais la compétition, dès lors que l'homme décide de prendre plusieurs femmes, il a engagé une compétition.
Oustaz, bien que la polygamie soit une recommandation musulmane, pourquoi pensez-vous que certaines femmes la boudent quand même?
Oui, certaines femmes, parce que c'est en fonction des moyens. Elle ne veut pas partager les minimums ou les moins que les maris, parce qu'elle trouve que c'est peut-être les moyens de son mari sont un peu minimes pour qu'une autre vienne. Ça, c'est un facteur aussi qui peut expliquer ce que vous dites là. Donc, un autre aspect, pourquoi elle boude les choses, parce que il y a une femme, l'affectuelle, là, elle les partage pour elle-même, elle les réserve pour elle-même. Elle ne voulait pas qu'une autre goûte ce qu'elle goûte dans les foyers. Une femme, c'est comme un enfant. Ce n'est pas le sociologue qui va me démentir. C'est comme un enfant. C'est-à-dire, son esprit, c'est comme un enfant. Si tu la poses sur une ligne de conduite, sur quelque chose, eh bien, arrange-toi à le respecter. Tu amènes quelque chose contre, tu sais que tu vas faire un travail au moins de recyclage pour l'amener à l'accepter.
Mm-hmm.
Donc, c'est comme ça. Donc, ça veut dire qu'une femme, il faut savoir quel engagement prendre avec elle. D'accord. Avant même des choses-là, si tu m'aimes, moi, je suis quelqu'un qui savoure la polygamie. Je vais te faire une copie après. C'est pas pour te vexer, c'est pas pour te mimer, ton droit est là, intact.
Mm-hmm.
Si l'engagement est comme ça, là, je ne vois pas comment est-ce qu'elle va bouder que l'homme, son mari, puisse apporter une autre.
D'accord.
Vous savez, le prophète a donné des signes. Il a dit dans un hadith, on épouse une femme ou plusieurs femmes pour quatre qualités. C'est-à-dire il faut aligner ces quatre qualités, tu vas voir que tu auras la paix. On épouse une femme pour sa beauté, il dit pour sa classe sociale, pour son bien. En quatrième position, on épouse une femme pour sa religion. Vous voyez, si on se permet d'observer ou d'aligner les femmes de cette manière-là, je vous assure que Rafika n'aura pas de problème.
Oui, voilà, selon la religion, est-ce que les coépouses doivent cohabiter sous le même toit? Selon la religion,
non.
Que dit la religion sur la cohabitation?
La religion islamique, elle respecte la pudeur. C'est-à-dire, si vous dites sous le même toit, c'est-à-dire que, bon, une chambre qui vraiment, ce que tu dis avec celle-là, là, l'autre entend, c'est pas bon. Mais le prophète lui-même, il a fait des maisonnettes, quoi. Hujrat Rasoul, donc il a pris à chacune sa maison et quand il est avec elle, il est avec elle.
D'accord.
Ouais. C'est une obligation. Si vous savez que vous ne pouvez pas faire l'équité, c'est ça l'équité. Celle-là, là, elle a une chambre salon, celle-là devrait avoir une chambre salon. C'est que tu vas dire à celle-là, là, l'autre ne devrait pas entendre.
Monsieur Ibrahim, une des dernières questions que je viens de poser à Oustaz, pourquoi pensez-vous que les femmes boudent quand même la polygamie malgré que ça soit une recommandation musulmane?
Bon, les femmes boudent la polygamie, bien que cela soit une recommandation religieuse, parce que tout simplement, il y a la question d'héritage qu'on n'a pas encore évoquée jusqu'ici. Vous mettez en jeu des intérêts. D'abord, le mari, il prend une deuxième femme. La première femme va voir que la deuxième est venue empiéter dans ses avantages en tant que première épouse. Avantage sexuel, avantage matériel, avantage financier. Ça, c'est un. Et deuxièmement, la question d'héritage est là. Parce que la plupart du temps, dans les sociétés, les femmes pensent que les maris vont mourir les premiers. Vous prenez une deuxième épouse, donc c'est bien normal que la première épouse se dise que quand vous allez mourir, l'héritage va être partagé en deux. Donc, tout tourne autour des intérêts. Donc, c'est bien normal, elles ont raison de le penser, mais quand même, elles doivent être réalistes, parce que c'est une recommandation religieuse.
Une autre pratique, surtout dans la région Zarma, la femme dont l'époux se marie avec une nouvelle épouse organise une cérémonie au cours de laquelle elle invite les femmes mariées du village à passer la journée. La nuit venue, avant l'arrivée des mariés, toutes les femmes forment un demi-cercle et celles épousées en première noce insultent de manière sociale et acceptable celles épousées en seconde noce et vice-versa. En tant que sociologue, que pensez-vous de cette pratique? Est-ce qu'elle peut engendrer des conséquences de la future vie commune de ces femmes dans le foyer?
Oui, cette pratique, elle existe beaucoup plus en milieu rural qu'en milieu urbain.
Mm-hmm.
Elle existe parce que c'est une valeur sociale.
Mm-hmm.
Elle existe parce que c'est une valeur qui a des fondements. Ça n'a rien à voir avec des insultes.
Mm-hmm.
C'est juste pour que la deuxième sache qu'elle est la deuxième épouse.
Mm-hmm.
Pour qu'elle sache que la première épouse n'est pas sa concurrente, mais sa grande sœur.
D'accord.
La première épouse, c'est son aînée. Donc, tout ce qu'elle doit faire, elle doit le faire en complicité avec la première épouse.
Mm-hmm.
Et je vous donne un exemple. Vous remarquerez qu'en zone rurale, la polygamie, elle est plus acceptée qu'en milieu urbain. C'est pourquoi je vous ai contextualisé la polygamie purement traditionnelle et la polygamie tradie moderne qui se retrouve en milieu urbain. Partant de cette cérémonie, il y a une confiance qui est créée au sein du foyer. Parce que la deuxième épouse, c'est comme si on était en train de l'inculquer les valeurs sociales, les valeurs de cohabitation pacifique à l'intérieur du foyer. Est-ce que vous voyez?
Mmh.
Et le mari, au-delà de tout, qui chapeaute tout le foyer, est quelqu'un qui s'assume. Ce n'est pas aussi compliqué que ça. Si aujourd'hui, en milieu urbain, nous sommes en train d'assister à des ménages où les femmes ne veulent même pas se voir. D'abord, nous sommes en train de leur donner la possibilité.
On va passer directement à M. Alzouma. Quel est le constat qui se dégage dans les foyers polygames? Et aussi, quels sont les cas de violence que vous enregistrez à votre niveau entre coépouses? Les cas.
Mmh. Entre coépouses, c'est
et
vrai.
Et les constats aussi qui se dégagent de ces foyers polygames?
Bon, le constat qui se dégage, c'est que c'est vrai, comme M. Ibrahim vient de le dire, il y a deux contextes qu'on doit aujourd'hui parler, c'est-à-dire le contexte traditionnel, c'est vrai, où la polygamie est bien perçue et quelque chose aussi qui est normal, qui est compris de tous. Mais aujourd'hui, on a tendance que c'est comme si c'est quelque chose qui n'est pas bien. Dès qu'on parle de deuxième épouse, donc la première épouse se met dans un état second et ça crée des problèmes. Et c'est ça qui a amené aussi aujourd'hui certains hommes à vouloir séparer les maisons, donc au risque de faire deux familles et de faire en sorte aussi que ces enfants ne puissent pas vivre en harmonie ensemble, ne puissent pas se connaître. Donc là, c'est vraiment des problèmes. Mais pour éviter tous les problèmes, c'est ça aussi qui a amené les hommes à adopter cette situation. Parce que nous avons vu, pour ce qui est des familles qui vivent ensemble, il y a toujours des problèmes. Il y a toujours des problèmes et quand les femmes viennent, et c'est ça même des fois qui crée même un début de problème entre l'homme et la femme. Avant, ils vivaient en harmonie, mais dès que la deuxième là va venir, vous allez voir entre lui et la première, c'est fini. Il y a un fossé qui va se creuser. Parce qu'il y aura une rupture de confiance. C'est comme si elle n'a plus confiance à son mari. Donc, du coup, ça devient ingérable. Et c'est ça même qui peut aussi conduire même à un divorce entre eux. On a vu beaucoup de cas qui viennent, qui disent que le mari a pris une deuxième femme, elle ne va plus rester. Parce que ce n'est pas ça qu'il lui a promis. Il lui a promis qu'il va rester avec ça, il ne va jamais prendre une deuxième. Alors que l'envie de prendre une deuxième femme, c'est quelque chose qui peut venir après. Même si on n'a pas, au départ, on n'a pas cette intention, mais ça peut venir après. Parce que l'homme peut avoir besoin de fois de changer. On dit que tu peux vouloir avoir une femme élancée, une femme courte, une femme claire, une femme noire. Donc, on t'a donné la possibilité de prendre quatre, donc tu essaies de faire le dosage et puis tu vas... Mais ça, c'est pas compris par beaucoup de femmes. Parce que c'est vrai, c'est un peu dur aujourd'hui de partager et quelqu'un avec qui on a pratiquement passé toute sa vie. Et surtout que les femmes se disent que je l'ai connu quand elle n'avait rien, quand elle n'était rien. Maintenant qu'il est devenu important, qu'il a amassé des richesses, maintenant voilà une qui va venir pour partager le gâteau. Et c'est là qu'entre l'aspect financier et matériel que M. Ibrahim a dit.
D'accord. Nous entamons maintenant la dernière question. On continue avec vous, M. Alzouma. Quel est votre appel à l'endroit de tous les hommes mariés en général et les femmes en particulier pour qu'ils puissent vivre en harmonie dans leur foyer polygame?
Et moi, je crois qu'on l'a toujours dit. Aujourd'hui, le plus grand problème qui mine nos foyers, qui mine nos familles, c'est un problème de communication. On communique très peu. Parce que quand on communique, on peut se comprendre. Et si on se comprend, je crois qu'on peut éviter beaucoup de choses. Aujourd'hui, c'est ça le problème, c'est ça qui mine la cohésion sociale, la cohésion familiale. C'est ça qui mine aussi la paix dans nos foyers. Donc, il faut que vraiment nous puissions revenir à cela, qu'on puisse vraiment communiquer pour que chacun sache aujourd'hui c'est quoi ses droits, c'est quoi ses devoirs. Parce que quand on se marie, on a des droits envers l'autre. Et les droits qu'on a envers l'autre, c'est aussi des devoirs pour vous. Vous devrez les assumer et en retour, vous allez aussi recevoir la même chose.
D'accord.
Donc vraiment, tant que cela n'est pas respecté, tant que je vais empiéter sur le droit de l'autre, ça veut dire qu'on ne connaîtra jamais la paix.
D'accord.
On doit savoir que mes droits s'arrêtent là où commencent les droits de l'autre. Donc en ce moment-là, je crois que si on respecte cela, on va vivre en harmonie.
D'accord. Oustaz, la même question pour vous. Quel est l'appel que vous lancez pour que l'époux et ses femmes puissent avoir une vie harmonieuse au sein du foyer?
C'est de promouvoir vraiment les valeurs pour lesquelles, n'est-ce pas, le mari t'a utilisé, t'a choisi pour femme. Donc, il faut vraiment bien faire usage de ça et s'en tenir à ça. Ça veut dire que de ne pas empiétiner sur les causes ou les raisons ou le domaine qui relève de l'autre femme. C'est-à-dire au point où il faut rendre la vie impossible à ton mari parce qu'il y a une autre qui est là. Donc, il faut vraiment faire prévaloir les valeurs pour lesquelles ou les qualités pour lesquelles toi tu es là. Donc, il faut veiller sur ça. Ne t'ingère pas dans les choses parce que et par-dessus tout, Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, l'une des qualités d'une bonne foi, d'une bonne croyance à un être humain, c'est de ne pas s'occuper de ceux qui ne le regardent pas. Donc il faut vraiment se comporter de cette manière-là. C'est-à-dire te contenter vraiment des valeurs, des qualités pour lesquelles tu es venu dans ce foyer-là. Maintenant, de ne même pas chercher à savoir pourquoi elle est là, l'autre, pourquoi, quelles sont ses qualités et autres. Ça, c'est pas toi, parce que ton mari ne l'a pas épousé pour toi, il l'a épousé pour lui.
D'accord. Et vous, monsieur Ibrahim, quel est l'appel que vous lancez à l'endroit des maris et des épouses?
Moi, l'endroit que je lance à l'endroit des maris et des épouses, d'abord à l'endroit des maris, il faut qu'ils soient des maris qui s'assument sociologiquement, qui prennent en compte nos valeurs sociales traditionnelles, qui encouragent l'unité familiale et la cohésion sociale. Il faut qu'ils soient des maris équitables, qui respectent l'équité, la légalité et la justice. C'est difficile, comme il a dit, de montrer à toutes les femmes le même degré d'amour. Mais il faut faire en sorte que tout le monde, même l'observateur externe, sache que ce chef de ménage est assez responsable pour pouvoir supporter 2, 3 ou 4 époux. Ça, c'est 2. Et troisièmement, chez les épouses, il faudrait que, a priori, la deuxième ou la troisième ou la quatrième épouse, avant de venir dans le foyer, se disent qu'elle vient conforter le foyer et qu'elle vient pour donner des enfants, pour contribuer à l'épanouissement de son mari. Il faudrait qu'elle fasse de l'épanouissement de son mari un premier souci. Parce que si elle fait de cela un premier souci, elle va en tout cas faire tout pour pouvoir ne pas créer des problèmes qui vont affecter toute la famille. Et je pense que mon dernier mot, c'est aussi de prendre des conseils, et pour les femmes et pour les maris, de prendre des conseils auprès des aînés. Parce que nous sommes en train vraiment de sortir du contexte traditionnel pour un contexte qui n'a rien à voir avec la tradition. Donc les aînés, là, il ne faut pas les mettre à l'écart. Les aînés et les marabouts. Il faut vraiment, à chaque fois que de besoin, demander leurs conseils. En les appliquant dans votre foyer, vous allez voir un changement.
D'accord. Les épouses qui cherchent à accaparer les faveurs et ressources du mari se mettent souvent en concurrence pour lui donner toujours plus d'enfants ou pour être la plus aimée, provoquent des tensions dans le foyer. La recherche d'attention, comme je le disais, dans les familles polygames est une chose à éviter et que selon l'ONG SOS FEV, 5% des cas enregistrés à leur niveau émanent des violences entre co-épouses. La communication doit être la base d'une bonne cohabitation entre mari et épouse au pluriel et de promouvoir certaines valeurs pour lesquelles la femme a été prise comme épouse et de ne pas surtout s'ingérer dans la vie de l'autre épouse. Et pour une vie harmonieuse au sein du foyer polygame, l'équitabilité du mari doit être en première position. Nous sommes au terme de notre débat. Merci, chers invités, pour votre disponibilité. Merci aussi à vous, fidèles auditeurs et téléspectateurs du studio Kalangou. Je rappelle que vous pouvez nous suivre à travers un réseau de 52 radios et 7 télévisions partenaires dans toutes les 8 régions du Niger. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre page Facebook et sur le site web www.studiokalangou.org. C'était Seyni Issaka à la technique et Issa Lawali à la régie vidéo. Excellente soirée à tous.